Podcast. Backstage, le podcast, ce sont Margot Delpierre, journaliste radio, et Thomas Langlin, technicien supérieur du son. Ils nous font découvrir les coulisses de la création par la voix de ceux qui font la culture. Retrouvez l'ensemble de leurs podcasts sur leur site backstagelepodcast.com. Aujourd'hui, il s'agit du second épisode sur les quatre prévus consacrés à Claire Le Maréchal, scénariste, au micro de Margot Delpierre sur un montage et un mixage de Thomas Langlin. Un entretien enregistré en décembre 2018.
Quand vous écrivez, vous vous autorisez tout ? Il n'y a pas de limite ?
On s'autorise tout, oui, dans la mesure où ça va dans le sens du projet et de ce qu'on a envie de faire. Évidemment, on n'écrit pas la même chose pour Arte et sur une série sur les années 60 en comédie que pour TF1 dans une série policière en prime time. C'est pas...
C'est jamais arrivé qu'on vous dise non, qu'une si. Chaîne vous dise ça, vous pouvez pas l'écrire ou...
Si, ça arrive. Sur TF1, c'est arrivé. Je sais que sur Sam, par exemple, on avait proposé que Sam soit... Elle anime un projet dans sa classe et ça nécessite que les élèves trouvent un moyen de gagner de l'argent et pour le financer. Et on avait imaginé que les filles revenaient avec l'enveloppe en très très peu de temps et elles comprenaient qu'en fait c'était de l'argent de la prostitution, qu'elles étaient allées tailler des pipes dans les toilettes. Et bon, ça c'est un sujet qui est pas passé et où TF1 a dit non, on peut pas aller là. Ça se passait dans un collège, donc ça supposait que ce soit des élèves très jeunes. On sait que ça existe, c'est une réalité, mais ça, la chaîne ne souhaitait pas le traiter en prime time dans une série qui se voulait familiale, et je pense que c'était fort, mais je peux comprendre que ce soit à la limite de ce qu'on peut faire sur une chaîne très grand public.
Mais c'est la seule fois où c'est arrivé.
Oui, franchement c'est très rare. Mais après, on sait où on met les pieds, on va pas proposer dans section de recherche des scènes, je sais pas, de violence extrême ou de... Après, ça n'a pas de sens. C'est pas... Dans le temps qui nous est imparti, on n'a pas le temps d'aller pousser les limites. Mais on repousse les limites quand même, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire. Il y a, par exemple, dans Plus belle la vie. Moi, je fais des dialogues sur Plus belle la vie depuis des années. Je crois que les gens qui ne regardent pas se rendent pas compte de la liberté de ton et de qu'on peut avoir, et de la liberté dans le traitement de certains sujets qu'on n'aurait pas du tout sur des séries censées être plus moins grand public et moins formatées, plus subversives dans leur propos de départ. Par exemple, il y a eu une intrigue il y a quelques années où un des personnages qui vit de petits trafics et qui c'est vraiment dans son mode de vie s'impose d'arrêter parce que sa copine supporte plus que qui soit sans cesse à la marge et menacé de se faire arrêter tous les 15 jours. Et il arrête, et quelques semaines plus tard, il se rend compte qu'il a plus de libido, il bande plus. Et il reprend son trafic, et ça revient. Et voilà, et c'est la fin de l'histoire. Et c'est passé. Enfin,
sur France 3.
Oui. Et c'est parce que ça n'est pas traité comme un sujet. C'est juste dans la trajectoire des personnages. Voilà, c'est ce qu'on raconte, et c'est de façon assez naturelle parce que le long cours et la multiplicité des points de vue permettent de traiter ça sans que ça soit scandaleux ou sans même qu'on le remarque. Donc c'est... L'homosexualité est très bien traitée aussi dans Plus belle la vie. Les personnages sont présents depuis très longtemps. On n'a pas eu de passage obligé au moment du mariage gay. Le couple de personnages gays historiques de la série étaient déjà ensemble depuis longtemps. Ils se sont mariés, c'était tout à fait naturel et pas traité comme un passage obligé de démonstratif avec un côté volontariste et oulala, il faut traiter le sujet qu'on peut avoir, qui est aussi une forme de censure, même si c'est pas vécu comme tel. Les passages obligés sont une forme de censure, et si on le fait pas, on traite pas le sujet. Donc, enfin, voilà, il y a une vraie équation à résoudre là-dessus, sur les sujets de société, je trouve, et dont on peut s'affranchir paradoxalement sur des séries comme les feuilletons quotidiens, où les codes de narration permettent ça.
Vous êtes sensible aux critiques du public?
Bien sûr.
Bien sûr, avez travaillé sur des projets très populaires, franchement bien accueillis.
Oui, parce qu'on met toujours beaucoup de soi. Évidemment, je suis moins touchée par ce qu'on peut dire de Plus belle la vie parce qu'on est 40 à écrire. Enfin, on n'est pas 40, mais on est une bonne vingtaine. Donc, je suis moins touchée que sur Au service de la France où on est trois. On met beaucoup plus de nous parce que elle est singulière, on l'a créée, c'est pas la même chose. Mais on est toujours touchée par ce que le lecteur ou le spectateur disent de notre travail, bien sûr. Les comédiens, quand ils lisent le texte, enfin, c'est un très grand bonheur quand les comédiens nous disent que c'est un plaisir de jouer ce qu'on a écrit et quand le réalisateur le met en scène avec plaisir, quand le public le reçoit bien. Bien sûr, oui, on est. Je pense qu'aucun personne n'est insensible à ça.
Est-ce que vous mettez la pression quand vous travaillez sur de gros projets? Je pense aux épisodes que vous avez coécrits pour Le Bureau des Légendes, qui est une série adorée et je pense en même temps à chaque fois attendue au tournant tellement elle est devenue culte. En 4 saisons?
Oui, alors ma contribution était suffisamment modeste pour que je sois affranchie de cette... Enfin, évidemment, on se pose la question, mais je n'avais pas la responsabilité d'une saison où j'ai collaboré à 3 épisodes avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'humilité parce que j'arrivais sur une saison 4 sans avoir écrit sur les précédentes séries. Et j'ai travaillé... exclusivement avec Camille de Castelnau qui était en charge de ces étapes de travail sur lesquelles j'ai travaillé avec elle. Oui, bien sûr, on se dit qu'on n'a pas le droit de décevoir après 3 saisons très réussies. Mais on se dit ça sur Section de Recherche, si on fait son travail correctement, c'est bien sûr pas les mêmes enjeux, pas les mêmes ambitions. On touche pas les mêmes gens et on raconte pas la même chose et ça ne mobilise pas le même type d'énergie, mais quand on est face à son texte, on fait vivre des personnages et j'essaye d'avoir la même exigence pour... Parce qu'on a aussi des millions de gens qui nous regardent, et voire plus d'ailleurs.
Oui.
Donc c'est cette exigence-là et cette crainte-là de décevoir, elle est toujours présente, bien sûr.
Ça vous plaît de vous balader d'un genre à l'autre,
oui.
Entre Sam, Au service de la France
Oui, j'aime bien.
Il y a un genre qui vous plaît plus qu'un autre?
Non, il y a des genres que j'ai pas du tout abordés ou auxquels je me sens très étrangère, comme la science-fiction ou le fantastique. Je dirais pas ça parce que je l'ai jamais approché, mais j'ai collaboré à un projet qui aborde ce genre-là et ça m'intéresse dans la mesure où ça éclaire la réalité. C'est-à-dire que je décroche si, en tant que spectatrice et en tant qu'auteur, je serais incapable de le faire. Si c'est un univers qui est trop déconnecté des codes de la réalité, mais recréer un monde où je retrouve mes repères et mes sources d'inspiration qui sont beaucoup dans ce que je connais et dans ce que j'observe du monde, c'est ça que j'aime. Donc c'est naturellement des genres plus réalistes qui me plaisent. J'aime particulièrement la comédie du drame. Je dirais qu'on n'a pas beaucoup l'occasion de traiter en télévision parce que d'abord, il y a peu de comédies à la télévision, de la vraie, il y en a très peu. C'est pas un genre qui est très approprié à la télévision, je pense. Mais je dis le drame, mais c'est plutôt de la gravité ou d'une situation, d'arriver à rire d'une situation sérieuse. Ça me plaît beaucoup.
Vous vous inspirez de choses de votre quotidien, de votre propre famille? Comment
oui,
ça se
oui,
passe?
Beaucoup, oui, des gens qu'on croise.
Vous notez des choses ou...
Non, mentalement, j'observe beaucoup. Je crois qu'on est des éponges dans ce métier. On se fait souvent cette réflexion entre scénaristes quand il nous arrive quelque chose, que ce soit quelque chose d'heureux ou de malheureux. Très souvent, on se dit quelle bonne scène. Mais ça m'est arrivé à l'enterrement de ma meilleure amie où on peut être dans une émotion... Ça ne nous met pas à distance de la réalité, mais on a une sorte d'hyperconscience de la scène qui se joue. Très souvent, on se dit, mais quelle force, là où d'autres, évidemment, ne le voient pas comme ça, mais il y a une sorte de prisme déformant.
On se dit que ça ferait une bonne histoire.
Oui, une bonne histoire, une bonne scène, une bonne réplique. Je passe mon temps à me dire ça, à regarder le monde et à me dire ça. Et évidemment, à se poser la question de ce qui est intéressant à en dire et à en faire ressurgir dans les scènes.
Qu'est-ce que vous regardez alors comme série télé?
Alors, je suis très en retard. Récemment, J'ai beaucoup aimé The Handmaid's Tale. J'ai commencé à regarder Better Call Saul, que je trouve déjà magistral avant d'avoir
J'allais
vu grand-chose.
J'allais demander si c'était une influence d'ailleurs, parce que...
Alors non, typiquement, parce que ce genre de série, que ce soit Breaking Bad ou celle-ci, ou même The Handmaid's Tale d'ailleurs, sont des séries que je me sentirais totalement incapable d'écrire. Je les regarde en pure spectatrice. Enfin, j'admire beaucoup la façon dont c'est fait. Il y en a d'autres dont... Enfin, Le Bureau des Légendes, c'est une série que j'admire beaucoup et j'ai suffisamment peu contribué pour me sentir plus spectatrice qu'actrice du processus d'écriture. Mais je me dis que si j'y travaillais beaucoup, je pourrais... C'est une série qui pourrait être dans mes cordes. Dans l'excellence, mais dans mes cordes. Là, ce sont des séries que je regarde avec fascination, en me disant que jamais j'aurais pu avoir ni ces idées, ni la façon de les traiter, d'écrire les scènes, de penser ces personnages. C'est vraiment du plaisir de spectateur pur. Il y en a d'autres, This Is Us, que je trouve magistral aussi en écriture. Je collabore actuellement avec Franck Philippon à un projet de série pour TF1 International qui est un drama familial dont la construction pourrait se rapprocher de This Is Us, et c'est extrêmement difficile, donc je mesure la difficulté. Et bon, on essaie de s'en rapprocher, mais je suis très admirative aussi de cette écriture-là. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre récemment? Je reste dans les séries que j'ai préférées. Je commence à être vieille maintenant, mais Les Sopranos reste ma référence ultime et la série que j'ai préférée. Il y en a eu plein d'autres depuis, mais je pense qu'aucune ne m'a attachée autant. Mais c'est pas vraiment je le vis pas comme des inspirations. Évidemment, on se nourrit et on apprend et... Il y a énormément à apprendre, mais c'est un processus inconscient. Quand on écrit, enfin, je me dis pas « Ah, il faut faire comme ça parce qu'ils ont fait comme ça. » Et je trouve ça super et ça marche bien. On écrit en fonction de ses personnages et de ce qu'on a envie de raconter, et on essaie de le faire le mieux possible. Mais si l'influence, elle existe certainement, mais elle est inconsciente. On cherche pas à reproduire une recette ou un modèle, aussi brillant soit-il.
C'est pas dur parfois, après avoir regardé une très très bonne série, de ne pas s'en inspirer, même un petit peu, de faire abstraction.
Parfois, il arrive qu'on se dise, mince, je voudrais faire ça, et ça va ressembler trop à... Et c'est ce qu'ils ont fait magistralement, et je peux pas... Alors, est-ce qu'on aurait eu l'idée si on n'avait pas vu la série? Peut-être pas, ou le film, hein, ça c'est arrivé aussi. Ça m'est arrivé sur un épisode de Sam... Je me souviens qu'il est parti à la poubelle, d'ailleurs. On était en train d'écrire dans une urgence en plus extrême, le dernier épisode. Et on écrit une histoire d'un ado en perdition que Sam va aller rechercher dans un centre équestre, qui est un centre de réinsertion pour des jeunes délinquants. Et elle va le ramener à l'école et au goût d'apprendre. Et on écrit des scènes. Et le film La tête haute sort ces jours-là, et je me dis, enfin, j'ai pas le temps d'aller au cinéma, il faut absolument livrer l'épisode dans la semaine. Et un de mes co-auteurs voit le film et me dit, vas-y, il faut absolument y aller parce qu'on ne peut plus écrire l'épisode. Et il y avait au moins trois scènes qui étaient quasiment ce qu'on avait écrit. On ne pouvait plus, enfin, ça aurait été du plagiat alors qu'elles étaient écrites avant qu'on ait vu le film. Mais voilà, ça arrive. Mais évidemment, j'imagine que ça arrive aussi qu'on regrette. On regrette plutôt de ne pas être aussi brillant que les séries ou les films qu'on admire. Mais bon, je pense que concrètement, on ne se dit pas, c'est dommage, on ne peut pas faire ça. On essaie de trouver un autre moyen de raconter la scène quand on est tenté de copier, oui, de s'inspirer d'eux à un point où... Après, on a le droit aussi d'avoir des références et des inspirations, mais il ne faut pas que ça devienne du plagiat.